Crevon, vous êtes sur Jazz for Fun. Whoopi!
Bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur Jazz for Fun et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une femme. Elle a commencé sa carrière en étant journaliste. De 2005 à 2008, elle a présenté le journal du soir de France 3. Pendant plusieurs années, elle a été le joker de Laurent Delahousse et de David Pujadas pour les journaux télévisés de France 2. Elle a travaillé chez Europe 1 et chez RTL. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa maison de production. Elle est productrice, réalisatrice et animatrice de télévision. Elle a récemment sorti un livre qui s'intitule En forme, dans lequel elle livre sa méthode et ses conseils pour se sentir bien et être en forme. Marie Drucker, bonjour.
Bonjour. Bonjour Mathéo.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Je suis ravie de vous recevoir dans cette émission. Tout d'abord, pour commencer cette interview, j'ai une première question pour vous. Vous avez commencé votre carrière en étant journaliste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
Alors, je l'ai commencé et je l'ai poursuivi parce que je suis restée journaliste 23 ans. Ça n'a jamais été une vocation vraiment consciente, mais plutôt une évidence. J'avais l'impression, sans doute, que dès l'âge de 14 ans, j'étais vraiment très boulimique d'informations, de presse écrite, de radio. J'avais l'impression que c'était un mouvement naturel pour moi d'aller vers ça. Et puis, cette impression que c'était une fenêtre ouverte sur le monde, et j'étais très curieuse et j'avais le sentiment, et ça s'est vérifié d'ailleurs pendant plus de 20 ans, que non seulement je pouvais ouvrir cette fenêtre, mais aussi aller voir ce qui se passait de l'autre côté. C'est venu un peu petit à petit, un peu par hasard. Non, j'avais pas cette idée, en tout cas formulée comme ça, de dire tiens, j'aimerais bien travailler à la radio, à la télévision, dans les médias. Non, ça ne s'est jamais présenté comme ça.
Et comment se sont passés vos débuts en télévision et en radio ?
Ouh là là, alors d'abord mes débuts en radio, ils ont été tardifs puisque je suis entrée sur Europe 1. J'étais déjà journaliste depuis de très nombreuses années. En fait, j'ai commencé par la presse écrite en pensant que ce serait voilà l'endroit où je m'épanouirais le plus. Et en fait, je me suis trompée parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais dès l'instant où je suis passée voilà derrière une caméra, parce que j'ai d'abord été derrière, je me suis rendu compte que raconter des histoires avec des images, c'est ça qui me l'écriture en images, c'est ça qui m'intéressait le plus.
Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvée après par la suite à être le joker de Laurent Delahousse et de David Pujadas pour les journaux télévisés de France 2?
Ah bah ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que avant d'arriver sur France Télévisions, j'ai présenté les informations pendant 6 ans sur Canal+ et sur iTélé. Avant ça, j'avais déjà fait un an d'antenne sur France 2 dans une émission jeunesse. Donc j'étais rentrée à la rédaction. Je suis rentrée à la rédaction de France 3 pour présenter le soir 3 en 2005. J'y suis restée 3 ans. À la tête du soir 3, et puis j'ai été appelée par Arlette Chabot sur France 2 pour m'occuper des événements spéciaux de l'information, les cérémonies républicaines, tout à coup les événements spéciaux qui font que tout à coup on déclenche une émission spéciale en direct, etc., et pour être remplaçante de Laurent Delahousse les week-ends. Et puis à un moment, effectivement, je me suis retrouvée à être la remplaçante et de Laurent Delahousse et de David Pujadas. Et puis j'aimais bien, à cette époque-là, j'aimais bien le rythme du week-end, donc j'étais très contente de faire les week-ends. Et voilà comment les choses se sont faites, petit à petit en réalité. J'ai remonté un peu le fil du temps.
Et est-ce que vous avez fait des études en particulier pour devenir journaliste et animatrice télé?
Alors pas du tout, parce que moi je n'ai pas fait d'études et je ne voulais pas faire d'études. Donc moi je voulais travailler le plus vite possible. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai été un peu à la fac de lettres, mais dès l'instant où j'ai fait un stage et qu'on m'a tout de suite proposé un CDD dans une revue qui s'appelait Le Figaro Grandes Écoles et Universités, c'était Le Figaro mais qui était distribué dans les grandes écoles et les universités, j'ai pas hésité une seule seconde, j'y suis restée et c'est comme ça que tout a commencé.
Comment ça se passait une journée pour vous quand vous présentiez le journal?
Alors, arrivé à la rédaction vers 8h30 le matin, 8h30, Alors d'abord, quand on fait le week-end, moi quand je faisais vendredi, samedi, dimanche, vendredi c'est le journal de 20h et samedi, dimanche c'est le journal de 13h et le journal de 20h. Ça fait 5 éditions en 3 jours. D'abord, bah alors évidemment, déjà avant de partir de chez moi, j'écoutais la radio, je regardais un peu les chaînes d'information, arrivé à la rédaction, je regardais un peu les dépêches, je lisais les journaux, la presse écrite, je regardais aussi ce qu'il y avait dans la machine, les reportages qui étaient arrivés des différents endroits de France. Après conférence de rédaction pour construire les éditions et après voilà écriture du journal, construction d'un conducteur, visite des journalistes dans les salles de montage pendant qu'ils réalisent et montent leur sujet et voilà tout ça jusqu'au maquillage et après le plateau voilà.
Donc c'était très timé et intense comme journée j'imagine.
Exactement, c'est une journée qui est millimétrée, chronométrée, très intense. On sait exactement à quel moment on se met en retard, à quel moment on est en avance et parfois on est trop en avance et c'est pas bien. Voilà, avec une montée en puissance petit à petit jusqu'au moment de l'édition.
Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué dans votre carrière de journaliste ?
Oui, alors ça va sembler parce que ça ressemblait à rien de ce qu'on avait vécu et on sentait bien qu'il y aurait que c'était un bouleversement et que d'ailleurs ça profondément changé aussi le rapport des téléspectateurs, des auditeurs de radio à l'information. C'est le 11 septembre 2001. J'ai été la première à prendre l'antenne, toute chaîne confondue, c'était sur Canal+. C'est un moment de sidération tel, et néanmoins, il faut que toute l'équipe, voilà, on était tous aux commandes, et vous êtes en train de commenter quelque chose dont vous n'avez vous-même pas complètement que vous n'avez pas encore complètement apprivoisé et pour cause et au moment où on était à l'antenne en train de je me souviens j'étais avec François Cornet qui était un ancien grand reporter de France Télévisions et qui était sur iTélé aussi et Canal+ et tout à coup l'avion entre en direct dans la deuxième tour la seconde tour. Donc ça de toute façon c'est un moment fou en réalité et qui ne ressemble à aucun autre. Enfin, tous les journalistes qui ont travaillé à ce moment-là savent que c'est un moment absolument, oui, de sidération. Et puis c'était très étonnant. Ouais. Il y a vraiment un avant et un après, à tout point de vue, évidemment, pour le monde, bien sûr. Mais comme vous me posiez la question sur la carrière de journaliste, évidemment, c'est un bouleversement total.
Et dans quel état d'esprit on est justement quand on prend l'antenne en direct pour une édition spéciale et qu'on commence quelque chose qui est terrible comme ça ?
Il y a une très forte adrénaline. Il faut rester extrêmement concentré et attentif aux informations qui arrivent, voilà, et prendre les choses aussi avec beaucoup de modestie par rapport à l'événement.
Ce métier, il vous a amené à rencontrer beaucoup de personnes et vous en rencontrez aussi beaucoup encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué et que vous avez en tête ?
Non, c'est une question, c'est à la fois une question très pertinente, mais à laquelle il est impossible de répondre parce que il y en a eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance dans tous les domaines, le sport, la politique, la culture, les médias. Non, mais des gens comme Elie Wiesel, par exemple, mais aussi une femme qui avait été prise évidemment à tort dans cette affaire du fait divers d'Outreau, absolument incroyable au sens littéral, c'est-à-dire qu'on avait du mal à croire à cette histoire tellement voilà des gens ont été accusés à tort, etc. Non, aussi bien des gens qui ont fait des choses dans la vie et dans l'histoire, qui ont marqué l'histoire, que des gens à qui il est arrivé quelque chose dans le fait divers, enfin très différent, mais beaucoup de rencontres différentes. Mais l'autre jour, j'ai été en présence de Marie-Amélie Le Fur, qui est championne olympique en e-sport, championne paralympique. Bon, ça aussi, c'est une autre, ce sont d'autres rencontres qui marquent humainement différemment. Il y en a eu trop, je peux pas en relever une.
Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre un terme à votre carrière de journaliste ?
Alors, parce que je voulais absolument aller vers la création, changer vraiment de métier. Je me suis dit, voilà, autour de 40 ans, c'est le moment. Dans 10 ans, ce sera plus le moment. Apprendre encore des choses nouvelles, aller plus vers l'écriture, me consacrer totalement à l'écriture documentaire, vivre sur un autre rythme que le rythme assez tyrannique, finalement passionnant, mais assez tyrannique que celui de la formation au quotidien. Pour toutes ces raisons, voilà, j'ai pris cette décision.
En tout cas, c'est très passionnant cette interview avec vous, Marie Drucker. Et dans quelques instants, nous parlerons de votre métier aujourd'hui, puisque vous n'êtes plus journaliste, mais vous êtes productrice, réalisatrice et animatrice de télévision. Et on va parler de ça dans quelques instants, dans la deuxième partie de cette interview. À tout de suite sur Just for Fun.
Dabali.
Dabali.
Yeah, Dabali.
Dabali.
Yeah.
C'est joli, Dabali.
Dabali.
J'ai vu des terres brûler sous des soleils d'Afrique qui donnaient du fruit. J'ai vu des hommes parler dans des langues antiques, mais l'on s'est compris. Dabali Kusabata, des Polanio d'habitat. J'ai vu des ciels ardents et la fumée des volcans pour seul nuage. J'ai vu des ciels d'ébène et soudain dans la nuit les yeux de Dabali. Dabali Kusabata, ouais. Des Polanio d'Habita. Dabali Kusabata, Te Baorbeka.
Nous sommes de retour sur Just for Fun et vous êtes toujours dans l'émission En tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Marie Drucker. Est-ce que ça va toujours, Marie ?
Ah, ça va très très bien. Je suis ravie d'être en tête à tête avec vous et avec vos auditeurs, Mathéo.
Eh bien, moi, je suis ravie aussi d'être avec vous. C'est un plaisir partagé. Qu'est-ce qui vous plaît dans la production et la réalisation ?
En fait, la réponse est un peu dans votre question. C'est-à-dire que ce qui me plaît, que ce soit dans la production ou dans la réalisation, c'est la réalisation au sens faire advenir des projets, voilà. C'est-à-dire que, alors, la réalisation, moi, je réalise des documentaires depuis 2012, que je ne produis pas. Je suis produite par un producteur, et je produis les films des autres. Et la production, ce qui est merveilleux, c'est que vous mettez tous les moyens, c'est-à-dire éditoriaux, financiers, techniques, en œuvre pour qu'un auteur-réalisateur puisse réaliser son film. Donc ça me passionne, cette aventure-là auprès d'un auteur, d'un réalisateur. Et dans mon activité de réalisatrice, ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires, voilà, de raconter des histoires en images, de rencontrer des hommes et des femmes. Je réalise jusqu'à présent uniquement des films de société, donc très ancrés dans la société, dans la vie des gens, et c'est ça qui me passionne. Et vous me posiez avant la pause une question sur une rencontre peut-être qui m'avait marquée, mais quand je suis réalisatrice, enfin à l'époque où j'étais journaliste, mais maintenant que je suis réalisatrice vraiment à plein temps, en tout cas, c'est toutes les rencontres, en fait, tous les hommes et les femmes et les enfants et les adolescents que j'ai pu filmer dans mes films sont des rencontres passionnante, émouvante, touchante, intelligente. Voilà aussi pourquoi j'ai envie de faire ce métier, oui, à plein temps maintenant.
Comment est-ce que vous avez découvert le monde de la production et de la réalisation ?
Alors, je le connaissais un peu, bon, parce que d'abord, j'ai présenté beaucoup d'émissions, beaucoup de magazines, j'aurais des documentaires depuis 2012, j'avais été longtemps derrière la caméra, je connais bien le montage aussi, donc j'avais quand même une idée de la façon dont on produit, mais être à la tête de sa société, aller chercher les financements, etc., ben, j'ai appris sur le tas, voilà, j'ai appris en faisant, en observant, en interrogeant d'autres gens, en regardant aussi comment mon producteur avait travaillé avec moi sur mes documentaires, c'est comme ça que j'ai appris. Et j'ai pas fini d'apprendre.
Et quand vous réalisez des films, comment est-ce qu'elles vous viennent les idées de quoi filmer et sur quoi faire les films ?
Alors, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tout à coup, c'est une idée qui s'impose à moi. C'est-à-dire qu'on m'a souvent proposé de réaliser des documentaires sur des sujets que je n'avais pas forcément initiés.
Oui.
Bon, jusqu'à présent, je suis pas contre du tout, hein, mais jusqu'à présent, ça ne m'a pas trompée parce que j'ai l'impression qu'il faut que le film, l'idée, l'histoire s'impose à moi de façon totalement impérieuse. Donc, c'est quelque chose de très intime au fond, le documentaire, même si vous réalisez, racontez des histoires qui ne vous sont pas arrivées à vous, qui n'ont rien de personnel ou d'autobiographique. Il y a quelque chose de très intime dans l'écriture et la réalisation documentaire. Donc, jusque-là, ce sont des histoires qui se sont imposées à moi et sans que je sois totalement capable de vous expliquer pourquoi.
Alors, depuis le mois de février, vous présentez Au bout de l'enquête sur France 2. Est-ce que vous pouvez me parler de cette émission ?
Alors, c'est un magazine documentaire qui traite de cold case. Vous savez, ce sont ces affaires criminelles.
Oui.
Qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont rien donné du point de vue de l'enquête pendant des années et des années, mais qui, à la faveur d'un nouveau témoignage, des progrès scientifiques en matière de criminologie, finissent par rebondir et par aboutir à leur résolution. Voilà. C'est assez connu des téléspectateurs de France 2 qui sont très familiers, notamment de cette série qui est diffusée sur France Télévisions depuis très longtemps, qui s'appelle Cold Case, justement. Il y a eu pendant des années cette entrée d'accusé, donc alors, ça m'intéresse beaucoup le fait divers pour ce que ça dit de la société. Voilà, c'est une matière aussi à réfléchir sur notre société, sur les êtres humains, qui est très très intéressante. Et ce magazine me plaît beaucoup parce que c'est un magazine documentaire sans commentaire. La réalisation est très chic, l'écriture est très exigeante. Et pour toutes ces raisons, en fait, j'ai accepté de présenter cette émission.
Et cette émission, d'ailleurs, elle marche bien, puisqu'elle est suivie, elle est bien suivie chaque samedi à 14h sur France 2.
Oui, c'est un grand succès, là, et puis ça augmente, donc on est très contents, ouais.
Comment est-ce que vous la préparez, cette émission ?
Alors, cette émission, d'abord, ce sont des films documentaires qui sont réalisés par des réalisateurs, avec une mécanique très très précise dans laquelle moi j'insère mes plateaux, soit tout seul, soit sous forme d'interview avec le professeur de criminologie Alain Bauer, qui vient nous apporter aussi son éclairage. Voilà, c'est un récit en fait, c'est un récit que je porte pour partie, et qui se décline après à travers les témoignages et les situations, mais sans commentaire, sans voix off.
Et pour Infrarouge, est-ce que c'est pareil ou pas la préparation de l'émission ?
Alors, Infrarouge, c'est particulier, donc c'est le mardi soir sur France 2, c'est un magazine documentaire avec un film et un débat ensuite. Donc moi, je présente le magazine, je produis mon plateau, c'est-à-dire que je produis la partie où on me voit présenter l'émission, pré-animer le débat, etc. Mais je ne produis pas les films qui sont diffusés. Ça D'accord. peut m'arriver,
oui.
Mais c'est pas le cas. La majorité des films sont des films réalisés et produits par tout un tas de producteurs, de réalisateurs différents.
Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, vous avez travaillé chez Europe 1 et chez RTL. Est-ce que vous aimeriez refaire de la radio ?
La radio est un média qui me passionne, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et d'affection. Je suis restée 2 ans sur Europe 1 et 5 ans sur RTL. Et oui, pourquoi pas ? vraiment, pourquoi pas, mais encore une fois, pas pour animer, pas pour faire de l'information. Il faudrait que je trouve autre chose. Mais bon, là je suis suffisamment occupée et comblée pour y penser maintenant.
Alors Marie, vous avez sorti un livre qui s'intitule En forme. Eh bien, ce sera le sujet de la troisième partie de cette interview dans quelques instants sur Just for Fun.
Les petites jolies choses, ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver, les petites jolies choses. Parfois on ne les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste. Pour la beauté du geste. Qu'on voit pas, mais qui nous manquerait s'il n'était pas là. Les petites jolies choses, c'est rien que la somme de quelques détails. Une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore, un joli souvenir juste quand on s'endort. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste. Pour la beauté du geste, comme quand tu remontes.
Sur Just for Fun et vous êtes toujours dans l'émission en tête à tête avec. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de pouvoir poser quelques questions à Marie Drucker. Marie, je suis très heureux d'être avec vous.
Bah, moi aussi.
Alors, vous avez récemment sorti un livre qui s'intitule En forme. De quoi parle-t-il ?
Alors, c'est une méthode. Alimentation, santé, beauté, stress, sommeil, sport. C'est une méthode, ma méthode, un peu globale. Pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, voilà, et trouver un équilibre général qui permet d'affronter la vie et d'être bien dans sa peau.
Comment est-ce qu'elle est née l'idée de ce livre ?
Je me suis dit qu'en fait, la période qui s'ouvre à partir de 40 ans pour une femme est une période assez extraordinaire, pour peu qu'on soit justement bien dans son corps et bien dans sa tête. Et je me suis posé la question. C'est quand même une période charnière et j'ai beaucoup de chance parce que je me sens bien et pourquoi? Et voilà. Et j'ai réalisé en fait que il est vrai que j'avais mis en place des habitudes d'hygiène de vie et j'ai eu envie de partager ça comme je le ferais avec des amis mais sous forme de livres, avec des conseils, avec des interviews de spécialistes. Je suis allée voir parmi les plus grands spécialistes du sommeil, du stress, de l'alimentation, voilà, pour enrichir ce qui était un peu ma méthode à moi, évidemment, de point de vue de grands spécialistes.
Donc dans ce livre, on peut retrouver plein de conseils, c'est ça ?
Oui, bien sûr, mais bon, je vous invite à l'acheter. Bon, vous êtes pas vraiment concerné, Mathéo, parce que vous êtes beaucoup trop jeune, mais oui, beaucoup de conseils pour se sentir bien, ouais.
Alors, vous avez déjà écrit plusieurs livres, notamment avec Sidonie Bonnec. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'édition ?
Alors, attention, hein, c'est pas de la littérature, hein, ce sont des ouvrages pratiques. Ce qui me plaît, c'est de prolonger, par exemple, le dialogue. En tout cas le lien avec les téléspectateurs, mais sous une autre forme. Oui, c'est de partager quelque chose. Là, c'est vraiment... Par exemple, j'ai des amis qui ont lu mon livre et qui m'ont dit « c'est drôle parce que quand on te connaît, on te retrouve, on t'entend parler, en fait. » Voilà. Donc ça, on peut pas me faire meilleur compliment parce que je voulais faire ça comme... Oui, c'est ça, comme si... alors c'est un peu unilatéral, donc j'ai eu une conversation, mais il y a que moi qui parle. Mais maintenant, bon, avec les réseaux sociaux, on peut quand même dialoguer et entrer en contact les uns avec les autres un peu plus facilement. Mais oui, sous forme de conversation entre amis, en fait, voilà, avec un ton à la fois léger, pas culpabilisant, accessible, mais avec des choses très très pointues et étayées.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéresseraient pour écrire d'autres livres dessus?
Sans doute, mais pour le moment, je n'ai pas d'idée. Celui-ci vient de sortir, j'espère qu'il va avoir une belle vie, et j'ai pas encore d'idée.
Est-ce que vous avez des envies futures ?
Oh bah oui, forcément. Là, je viens de finir un documentaire, donc je vais comme réalisatrice, donc je vais l'accompagner. J'ai envie de bien sûr continuer à accompagner les auteurs-réalisateurs en tant que productrice. Oui, oui, bien sûr, mais pour le moment, voilà, là, c'est une période où d'accompagnement, voilà, de mon film, de ceux des autres, du livre. On est un peu vers la fin de saison en télévision, donc après, on se penchera sur septembre, mais pour le moment, voilà, je suis très très, bah, je suis très heureuse comme ça.
Marie, j'ai une dernière question à vous poser pour conclure cette interview. Quel conseil donneriez-vous à un jeune comme moi qui rêve de devenir journaliste et animateur radio et télé ?
Ah, alors ça, c'est la question difficile. Rester curieux de tout, tout le temps, sans distinction. C'est-à-dire, il n'y a pas des sujets plus nobles que d'autres. Le sport, la culture, il y a autant de valeur que la politique. Et ça, pour moi, c'est ne jamais s'interdire d'aller sur des chemins de traverse, se faire confiance, conserver, essayer d'avoir un style et de le conserver, voilà, apprendre toujours plus et lire beaucoup, voir des films, écouter de la musique, se nourrir de tout, tout le temps, de rencontres, être tout le temps en alerte.
Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis très content d'avoir pu vous recevoir dans cette émission. Je vous avais déjà rencontré il y a 2 ans avec Sidonie Bonnec à la librairie Doucet. Vous serez d'ailleurs de retour à la librairie Doucet pour dédicacer votre livre En Forme le 29 mai. Mais merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Et je vous avoue que j'étais un peu stressée avant de faire cette interview.
Eh ben, il n'y a pas de quoi. En tout cas, c'est moi qui étais ravie de partager un moment avec vous et avec vos auditeurs. Donc, quand vous voulez.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas,
merci
Marie.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Et vous aussi. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous pendant cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission dès demain en podcast sur notre site internet www.justforfunwebradio.fr. À bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et passez une belle soirée.
Tu sais, la vie ne vaut rien. Je ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon et même après je t'aimerai. Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime